savoir, Emmanuel Bastide.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'École des Savoirs. Nous causons des jeunes un petit peu partout en Europe. Vous savez peut-être que depuis quelques jours, notre président français Nicolas Sarkozy drague les jeunes. Il est vrai que les lycéens ont donné quelques frayeurs au gouvernement ces derniers temps. Alors la semaine dernière, Nicolas Sarkozy a déclaré vouloir mettre en place une politique de la jeunesse. Il a nommé un haut commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'une politique de la jeunesse? Est-ce que c'est efficace pour donner aux jeunes confiance en l'avenir, pour changer les mentalités? Et puis, une politique de jeunesse peut-elle se mettre en place à l'aube de la crise économique? Pour y répondre, nous parcourrons l'Europe avec une jeune sociologue, Cécile Van de Velde, Avakana Stellinger, suédoise, avec Pedro Picon, journaliste espagnol de 24 ans, et avec Kostas, étudiant grec. Bonjour Cécile Van de Velde.
Bonjour.
Depuis le début de l'année, Nicolas Sarkozy n'a de cesse de s'adresser aux jeunes. Il faut dire que bon, les lycéens ont récemment beaucoup inquiété le gouvernement avec des manifestations récurrentes. La réforme du lycée a d'ailleurs été repoussée d'un an. C'était le premier grand recul politique du gouvernement. La France a-t-elle jusqu'à maintenant une politique de la jeunesse, si on regarde un peu derrière nous?
Non, pas vraiment.
Et le présent.
On a à la fois une jeunesse relativement angoissée, mais paradoxalement, pas vraiment une politique de la jeunesse. On a des mesures qui vont toucher ou ne pas toucher les jeunes. Si on les résume brièvement, on a tout un arsenal de mesures qu'on appelle familialistes, c'est-à-dire qui favorisent plutôt la famille, la solidarité familiale. Par exemple, les allocations familiales données aux parents qui aident les enfants, qui s'occupent ou qui les hébergent ou qui les financent. On a également un revenu minimum d'insertion dont le seuil d'accès est à 25 ans. C'est-à-dire qu'entre 18 et 25 ans, on a toute une période intermédiaire où ce sont plutôt les parents qui sont censés aider les enfants, et on va aider ses parents qui aident les enfants.
Alors si on est étudiant, on peut quand même avoir l'allocation pour le logement, l'APL.
Exactement, ça c'est une aide, mais qui aide surtout les classes moyennes et aisées puisqu'elle ne suffit pas à elle-même à favoriser le départ du foyer. Donc l'utilisent véritablement ceux qui ont les parents qui peuvent aider les enfants à quitter le foyer en complément.
Nicolas Sarkozy a nommé un haut commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch. Est-ce que c'est du domaine pour vous du symbole ou bien c'est le début d'une réelle politique de jeunesse?
Bon, je crois qu'il y a un effet d'annonce. Évidemment, il faut voir derrière quels sont les moyens alloués, quelles sont les politiques qui vont être mises en place. Je crains un petit peu l'effet catégorie d'âge en France, dont on souffre déjà. Je crois qu'il aurait mieux valu créer un ministère des âges et réfléchir à l'ensemble des parcours de vie, comment on arbitre les finances entre également les personnes âgées, entre les actifs et les jeunes.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'oriente pas vers une politique pour tous les jeunes, mais plutôt vers des politiques un peu différenciées selon les difficultés sociales des jeunes.
Oui, puisque cette idée française, c'est quand même avant tout de prendre en compte le jeune dans sa famille. Et ça, c'est pas une idée qu'on trouve partout en Europe.
Si les pauvres, on va l'aider?
Les pauvres, ça va être en fonction du ménage auquel ils appartiennent. Donc, si les parents sont pauvres, on va avoir tendance à favoriser plutôt les bourses, plutôt des aides. Pour ces ménages pauvres, on pense l'individu, on pense le jeune comme encore dépendant de ses parents. Ce qui n'est pas le cas partout. On trouve des politiques en Europe qui, dès 18 ans, décident de ne pas prendre en compte la famille et d'aider le jeune directement à prendre son indépendance.
Alors justement, Cécile Van de Velde, nous allons tout de suite comprendre ce que peut être une politique de jeunesse version scandinave avec le cas de la Suède. Nous avons contacté Anna Stellinger, elle est suédoise, elle a aussi piloté l'année dernière une étude de la Fondation pour l'innovation politique sur les jeunes et leur confiance en l'avenir. Anna Stellinger.
Ce qui a été extrêmement intéressant de voir dans cette enquête qui couvre quand même 17 pays en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ce qui est extrêmement intéressant de voir, c'est qu'il y a deux jeunesses en quelque sorte qui vont assez bien. Et c'est la jeunesse scandinave et la jeunesse américaine. Ce qui peut bien évidemment paraître assez paradoxal, parce que dans ces deux régions du monde, on ne peut pas dire qu'il y a la même politique, ni économique, sociale, il n'y a pas la même histoire du pays non plus. Mais quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit qu'il y a un dénominateur commun qui est une politique volontariste, optimiste, positive, qui se dirige directement vers les jeunes.
Ça c'est pour l'esprit, mais dans les pays nordiques, il y a de vraies mesures qui accompagnent les jeunes. Alors dans votre pays, la Suède, quelles sont ces mesures? Comment un jeune est accompagné, disons, entre 15 et 30 ans?
Alors, dans les pays scandinaves, et notamment la Suède, il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu vague quand on explique ça aux Français, c'est qu'il n'y a pas de politique, ni économique, d'éducation, ni sociale quelconque, sans prise en compte de la jeunesse. C'est même inscrit dans les politiques gouvernementales que toute politique doit prendre en considération la volonté de la jeunesse.
Et qu'est-ce que ça veut dire, alors, concrètement, quotidiennement pour les jeunes ?
Concrètement, quotidiennement, ça veut dire que premièrement, les jeunes sont considérés comme des individus, des personnes à part entière, qui sont autonomes et responsables et qui ne dépendent pas de leurs parents. Lorsque vous avez 18 ans et que vous voulez continuer vos études, vous êtes entièrement indépendant de vos parents. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'être avocat ou médecin ou plombier, peu importe les consignes des parents, puisque ce ne sont pas les parents qui financent les études des jeunes. Il y a un système en place depuis, ça fait deux générations maintenant qui en profitent. C'est un système qui est pour moitié un prêt et pour moitié une allocation. Vous avez l'équivalent de 800 euros à peu près mensuel pour vivre. Ça peut paraître peu en France, surtout à Paris, mais ça aide quand même pour louer une chambre, pour payer les livres. Il n'y a pas de frais d'inscription, il faut le savoir aussi.
À l'université. Donc là, hein.
Enfin, à l'université. Tout à fait. Donc la moitié est donnée, la moitié est sous forme de prêt. Mais alors, grande différence, c'est sous condition de réussite des études. Donc quand on parle d'allocation et qu'on veut s'inspirer un petit peu du modèle scandinave en France, on oublie très souvent ça, que d'une part c'est un prêt à rembourser et d'autre part c'est uniquement lorsque vous avez réussi le semestre précédent que vous pouvez recevoir cette bourse prêt pour le semestre suivant.
Mais vous-même, Anna Stellinger, vous avez grandi avec ce type de politique publique ?
Ah mais totalement, moi-même et mes parents également. Et ce que vous pouvez trouver extrêmement intéressant en regardant le système de l'extérieur, c'est que dans mes cours, que ce soit à l'université de Lund ou dans d'autres universités, vous pouvez avoir le fils de plombier, le fils d'un camionneur, le fils d'un grand magistrat, le fils d'un homme politique, tous assis l'un à côté de l'autre, et le passé familial ne joue strictement pas dans le choix des études.
En même temps, on sait que maintenant en Suède, il y a quand même 40% des jeunes de moins de 30 ans qui ont des contrats précaires. Est-ce que vous ne craignez pas, avec l'arrivée de la crise économique, que le modèle social pour les jeunes ne vive ces dernières heures ?
Alors, le modèle social pour les jeunes est à réinventer continuellement. Et je dirais que c'est un des avantages, en fait, de ce modèle scandinave, parce que dans l'esprit, on l'a pas pris pour un acquis. Ça fait deux générations que ça dure. Donc, il y a des crises qui sont passées par là, et on a dû adapter continuellement le système.
Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en Suède, les jeunes ne sont pas un problème ? Il ne constitue pas un danger politique pour le gouvernement comme ça peut l'être en France ?
Quand on regarde l'ensemble des politiques de jeunesse dans ces 17 pays que j'ai étudiés, il y a des pays où les politiques traitent la jeunesse comme une menace dont il faut se protéger, la jeunesse qui fait peur. Il y a des pays qui traitent la jeunesse comme une victime, une pauvre victime qu'il faut protéger. Il y a d'autres pays où la ligne globale est la jeunesse comme une ressource, comme quelque chose dans lequel il faut investir pour l'avenir. Et c'est vrai que tant en France, on est souvent sur cette politique de la jeunesse en tant que victime, parfois en tant que menace, parce que ça fait peur aussi ce qui se passe dans les banlieues de temps en temps. Mais alors, dans ces pays scandinaves, obligatoirement, la jeunesse est considérée comme une ressource d'avenir.
Bonjour Pedro Picon.
Bonjour.
Vous êtes un jeune journaliste espagnol de 24 ans. Vous écrivez pour la version internet de cafébabel.com, un magazine européen sur le net. Vous avez étudié en Suède vous-même ?
Oui, j'ai étudié en Suède. J'ai passé là 6 mois.
Bon, un étudiant espagnol en Suède, ça donne quoi ?
Ça donne un mélange bizarre. C'était pas évident au début, mais à la fin c'était une expérience très très intéressante de comparer ces deux systèmes tellement différents.
Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Anna Stellinger sur la Suède ?
Je suis complètement d'accord, mais il faut prendre en compte aussi une côté social. Je ne sais pas si en Espagne, on est préparé, la jeunesse, on est capable de faire de la même façon qu'ils font en Suède.
C'est-à-dire
C'est-à-dire, leur indépendance, ce n'est pas seulement une indépendance économique, c'est aussi, c'est pas comme dire, une indépendance sentimentale. Je ne sais pas comment on peut dire.
Dans la tête, affective.
Affective, exactement. Moi, je suis en France depuis quelques temps déjà, et sinon dehors. Et moi, je parle avec ma mère chaque jour, ou chaque deux jours. Et moi, je ne prends pas ça comme un manque d'indépendance. Mais par contre, là, en Suède, j'étais choqué. Ils parlent pas pas avec ses parents, ils sont pas en contact, ils savent pas trop. Alors il y a un côté très positif, cette côté de chercher ton propre chemin, d'être indépendant, mais après il y a ces côtés.
C'est Sylvain Develde, vous partagez l'analyse et l'optimisme sur les politiques scandinaves de jeunesse comme Anna Stellinger?
L'analyse oui, l'optimisme peut-être un petit peu moins. L'analyse oui et aussi celle de Pedro, c'est-à-dire que ces politiques sont, enfin dépassent la seule Suède, hein, sont générales aux pays scandinaves.
Il y a la même chose au Danemark.
Au Danemark de façon encore plus généreuse, mais également
1000 euros par mois on a au Danemark.
Oui, avec deux tiers en bourse directe et un tiers en prêt à rembourser. Et effectivement, c'est des politiques qui ne sont pas directement importables parce que, enfin c'est l'histoire de la poule et l'œuf, mais elles se greffent à une culture de l'autonomie qui préexiste à ces politiques. C'est pour ça qu'elles sont nées dès les années 80. Et effectivement, dans les familles, quand on analyse comment ça se passe dès l'adolescence, il y a une autonomie très forte des adolescents. Et quand ils prennent leur indépendance, donc à 18 ou 20 ans en général, c'est déjà la fin de leur trajectoire d'autonomie. Et ils prennent leur véritable chemin à ce moment-là, favorisé par l'État. Mais politique et culture interagissent, oui. Ce qui est un peu plus compliqué en France. Et en tout cas, pour l'avenir de ces politiques scandinaves, il y a deux petites choses. Il y a déjà la crise qui vient...
Alors, est-ce que ça aura des répercussions sur ces priorités accordées aux jeunes?
Alors, c'est vrai que c'est des politiques qui ont tendance à favoriser plutôt les dépenses d'éducation et les dépenses envers les jeunes que les dépenses envers les personnes âgées, même si elles sont généreuses également envers les personnes âgées. Mais il va y avoir un problème de financement. Elles sont très coûteuses. Elles reposent, bien sûr, sur le financement des actifs. Si le taux de chômage augmente, il va y avoir des arbitrages à donner dans ces politiques généreuses, et il n'est pas sûr que l'arbitrage reste sur les jeunes et notamment les jeunes étudiants, puisque il y a un débat public, en tout cas je sais par exemple au Danemark, il y a un débat public sur l'idée qu'on favorise trop une jeunesse dorée. Donc la jeunesse n'est même pas vue comme un problème, c'est au contraire presque vu non pas comme une génération sacrifiée, presque une génération un peu trop dorée.
Ça peut finir par énerver à la longue.
Et ben, en tout cas c'est en débat public.
Le gouvernement danois commence un petit peu notamment à s'énerver sur le fait que bon, tous les jeunes prennent un an de pause au milieu de leurs études. Alors si on a un peu d'argent, on va beaucoup voyager, mais on peut aussi vivre des expériences personnelles, se mettre à travailler, puis reprendre ses études. C'est le cas aussi en Suède. Et les Danois, là, le gouvernement danois aimerait bien que les jeunes se mettent à travailler plus tôt.
Alors, ils travaillent déjà tôt. Et ça reste aussi dans des cultures qui favorisent le travail, l'expérience professionnelle assez tôt. Mais effectivement, il y a cette gap year, cette année de transition, même plusieurs années de transition, qui se greffent. Et la caractéristique de ces politiques, c'est aussi d'être flexible. Au-delà d'être direct, d'être universel, donc on donne de l'argent directement aux jeunes, on donne de l'argent de façon flexible, c'est-à-dire que c'est des bons sans limite d'âge. Et ça, c'est intéressant. En fait, à partir de 18 ans, le jeune danois, pour prendre l'exemple du Danemark, a le droit à 72 bons mensuels payés par l'État qu'il peut gérer à sa guise, donc stopper et reprendre. Donc si à 40 ans, il n'a pas utilisé tous ses bons, il peut reprendre les études. Ce qui est très porteur pour l'avenir, ce qui aide à l'idée d'une confiance en l'avenir, puisqu'on sait qu'on pourra reprendre ses études financées par l'État.
C'est Sylvain Develde et Pedro Picon. Vous restez avec nous, nous allons continuer de scruter différents pays d'Europe. On n'a pas encore parlé de la Grande-Bretagne, le modèle anglo-saxon. Dans quelques instants, on va retrouver Kostas, un étudiant grec. Et surtout vous, Pedro, vous allez nous parler des jeunes dans votre région en Andalousie, en Espagne. Vous qui appelez votre mère tous les jours.
Tous les jours.
L'école des savoirs, Emmanuel Bastide.
Il n'y a plus d'ampoule, plus d'avis pour les coachs et les poules. À l'école des sept rapules, on ne garde pas la pendule. On y passe des heures, ça nous fait pas peur, diffuser notre postérieur. Mon école, de traviole, j'en raffole. À l'école des sept rapules, il n'y a pas de crapule. À part le brasseur qui n'a pas de cœur, un affreux aux oreilles en souffleur. À l'école des sept rapules, la vie triste à injure. Le prof de musique, pas très énergique, mais leur amour y est magnifique. Mon école, de traviole, j'en raffole. À l'école des sept rapules,
Floride. Ça c'est sûr, ce n'est pas la Floride. Plus de sous pour les chèvres. 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 Chèvres à bulles, c'est pas là qu'on se bouscule. La feta au cumin remplace le boudin et ça, ça m'embouque un coin. À l'école des chèvres à bulles, au milieu de campanules, les grenouilles chanteuses et les poules pondeuses y passent des journées bien heureuses. Mon école de traviole, j'en raffole.
L'école des chèvres à pulls. Les chèvres à pulls, c'est un groupe belge, il paraît. Dans cette émission, vous savez qu'il y a un homme dont vous n'entendrez jamais la voix. Il est un peu timide, mais il a toujours un disque pour participer au débat à sa manière. Jean-Marc Meunier, c'est mon complice derrière ce micro, le réalisateur de l'École des Savoirs. L'École des Savoirs où nous discutons des politiques de jeunesse en Europe. Qui se mouille pour les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes attendent de l'État aussi et de l'avenir? Pedro Picon, nous parlions de vous tout à l'heure. Vous êtes un jeune espagnol, andalou. Vous êtes de Malaga.
Malaga.
Votre famille vit toujours à Malaga.
Hein. Oui. Ils sont tous là.
Oui, il fait beau. Et vous êtes le seul parti de la maison à 24 ans.
Ouais. Et je ne suis pas le plus âgé. Au contraire, je suis un des plus jeunes. Et les restes, ils restent là, bon, sauf deux de mes cousins qui sont partis pour des questions de... Ils se sont mariés ou bien ils sont vraiment en boulot ailleurs. Mais c'est seulement deux personnes.
Donc dans tous vos cousins-cousines, tout le monde est à la
maison.
Il reste
le plus âgé, il a 35 ans. Et le moins âgé, c'est mon frère, il a 21 ans. Et on reste tous à la maison.
Vous avez un cousin de 35 ans qui vit chez ses parents?
Oui, c'est une cousine.
Une cousine?
Et oui, elle est économiquement complètement indépendante. Elle n'a pas des problèmes, mais cet esprit de... Il faut être autonome et sortir de la maison et avoir ta propre maison, ça on ne le vit pas comme ça se vit en France. Elle reste là, elle est heureuse, elle participe à la vie familiale, elle a son copain, elle va se marier bientôt, et quand elle va se marier, c'est quand elle va quitter la maison.
Mais en fait, donc, vos cousins-cousines ne sont pas à la maison pour des raisons économiques. Ils n'ont pas
et
de problème économique.
Il y a quelques exemples, mon frère, par exemple, il ne peut pas
sortir. Bon, il a 21 ans, il est étudiant, c'est normal. Ouais.
Mais les restes, l'autre est pharmacienne, cet avocat, l'autre professeur de l'enseignance publique, c'est-à-dire ils ont de bons travail, ils gagnent leur argent, ils pourraient se payer une maison, mais pour quelqu'un d'entre nous, ça ne fait pas du sens de vivre tout seul. Je me rappelle aussi quand j'étais en Suède, j'avais très mal à manger tout seul. Quand j'arrivais midi et il fallait manger tout ça, c'était vraiment très... J'attendais quelqu'un parce que c'est une habitude. Quoi.
Cécile Van de Velde, en Espagne, quelle est la politique publique pour les jeunes? Est-ce qu'il y en a une?
Non, puisque l'idée, c'est que la famille est encouragée à s'occuper des jeunes jusqu'à leur mariage. C'est la limite, c'est ça qui est intéressant dans les cultures plus méditerranéennes et d'obédience plus catholique. La limite pour partir, c'est construire son propre foyer, comme Pedro le disait. Et donc, il est peu légitime de partir avant. On a un âge au départ, un âge médian au départ, donc 50% des jeunes partis de chez leurs parents, qui est de 28 ans en Espagne, tout comme en Italie, en Grèce et au Portugal, alors qu'il est de 20 ans dans les pays du Nord. Et plus vous descendez dans l'Europe, plus cet âge au départ augmente jusqu'à cet extrême des pays du sud de l'Europe. Alors c'est assez complexe. Les Espagnols, par exemple, dans les enquêtes, sont ceux qui, quand on leur demande pourquoi ils restent chez leurs parents, sont les seuls qui renversent un peu la perspective et disent « Pourquoi partir? Je suis très bien ici », avec une rhétorique liée à l'hôtel, j'ai une autonomie à l'intérieur même de la maison. Mais c'est un peu plus compliqué. Il y a à la fois cette culture familiale qui délégitime un petit peu la vie seule et qui favorise un peu l'insertion dans le foyer. Ouais. Et en même temps, de plus en plus, il y a les contraintes financières également qui viennent se greffer à cette culture familiale qui font que c'est relativement bien vécu, ce départ de plus en plus tardif. Mais on peut supposer que à la génération suivante, on sent les aspirations à l'autonomie au départ plus précoce monter au sein des jeunes. Bah, Pedro en est un exemple quelque part. Ouais. Et on peut supposer que de plus en plus, les contraintes financières vont peser on a des destins marqués très fortement par le chômage, par les difficultés d'insertion.
Presque partout en Europe, c'est le double du taux de chômage national pour les jeunes.
Oui, mais les
jeunes sont plus ou moins défavorisés. On est à 11% de taux de chômage pour les jeunes en Scandinavie, alors que la moyenne nationale est plutôt autour de 5%.
Oui, mais quand on fait quand même les relatifs, dans les pays du nord de l'Europe, en Allemagne et au Royaume-Uni, les jeunes sont un peu moins sensibles au chômage que dans les pays latins et en France. En France et dans les pays méditerranéens, on est vraiment, entre guillemets, lanterne rouge sur le fait de défavoriser les entrants. Les entrants, ce sont les jeunes qui attendent sur le marché du travail.
Alors avant de parler de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, revenons sur l'Europe du Sud. Il y a quelques semaines, la Grèce a connu de véritables émeutes urbaines dans toutes les villes. Les étudiants, les jeunes se sont révoltés parce que l'un d'entre eux est mort d'une bavure policière. Ça a été l'allumette qui a tout fait flamber. Je vous propose de réécouter le témoignage de Kostas, un étudiant grec qui étudie en France.
La jeunesse grecque souffre d'une injustice totale vis-à-vis les situations économiques, mais vis-à-vis aussi l'arbitraire de l'État. Il y a aussi la question énorme d'immigration.
Vous pensez que les jeunes grecs souffrent davantage d'injustice sociale que le reste de la population en Grèce?
Oui. La jeunesse et les immigrés. Mais la jeunesse, encore plus, parce qu'ils n'arrivent pas du tout à se faire attendre par les générations.
Par vos
les
parents.
Les vieilles générations.
Mais c'est pour ça que vous êtes venu étudier en France, Kostas?
Oui, effectivement, c'est pour ça. Mon exemple, je crois que c'est assez parlant, parce que moi, en Grèce, j'avais une maîtrise de sociologie, j'ai parlé 3 langues étrangères, j'ai travaillé pendant tout mon cursus universitaire pour justement financer mes études, et une fois que j'ai eu mon maîtrise, c'était pratiquement impossible de continuer à faire un master, voire une thèse, comme je ne faisais pas partie d'un parti politique en Grèce, et alors j'étais pas pistonné pour que je puisse accéder à une formation encore plus supérieure.
Vous ne pouviez pas continuer vos études en Grèce parce que vous n'aviez pas de piston dans l'université?
Voilà, c'est ça. Et alors, il a fallu que j'arrête les études pendant un an pour que je travaille dur pour faire des économies justement pour partir de mon pays.
Voilà, où en sont les jeunes en Grèce? C'est pas forcément très rose. C'est Sylvain De Velde. On n'a pas encore parlé du modèle anglo-saxon. Il y a un modèle anglo-saxon, même si ça n'est pas réellement une politique de la jeunesse.
Non, c'est un modèle dit libéral, c'est-à-dire qui favorise plutôt une indépendance également, tout comme dans les pays du nord de l'Europe, mais gagnée par ses propres moyens. C'est l'individu qui doit aller s'autonomiser, s'autofinancer. Donc on va avoir des politiques, certes, mais davantage, par exemple, des politiques de prêt. Donc 99% des jeunes britanniques sont endettés pendant les études.
Mais ce sont des prêts étatiques avec des...
Oui, c'est l'État qui garantit un taux d'intérêt stable. Donc ça passe bien sûr par les banques, mais l'État est derrière. Et l'immense majorité des étudiants contractent ces prêts, mais au prix d'études courtes. Les études sont trop chères dans un pays qui favorise justement l'autonomie précoce. Donc du coup, on va avoir un passage direct à l'emploi. Et aujourd'hui, par exemple, avec la crise, ce modèle, même s'il favorisait l'optimisme, la confiance en l'avenir, puisque les jeunes étaient facilement intégrés sur le marché du travail, est en péril, avec des contraintes financières de plus en plus fortes.
Cécile Van de Velde, votre ouvrage est paru l'année dernière. Il est passionnant, extrêmement documenté. Devenir adulte, sociologie comparée de la jeunesse en Europe, paru chez PUF. Pedro Picon, on peut retrouver le magazine européen des jeunes sur internet, cafébabel.com. Vous êtes chargé de la version espagnole, vous. Les sujets à la une en ce moment?
C'est Obama et ses nouvelles politiques.
Sans blague.
Il y a toute une variété.
Quant à vous qui nous écoutez à Berlin ou à Dakar, que sais-je, vous pouvez réagir, nous questionner, école@rfi.fr. À la réalisation, Jean-Marc Meunier, à la technique, Cécile Pompeani. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une autre École des Savoirs. Dans quelques instants maintenant, le journal sur RFI. Salut à tous.